Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne ou la chronique d'une catastrophe annoncée. Le 5 novembre 2018, Marseille se réveille sous la poussière. Deux immeubles, le 63 et le 65 de la rue d'Aubagne, dans le quartier historique et populaire de Noailles, en plein centre, se sont effondrés. Bilan, 8 morts, 2 blessés, des milliers de délogés et tout un peuple marseillais en proie à la sinistrose. Leur ville est-elle pourrie? Oui, pourrie par l'eau. Les moisissures qui rongent les fondations et les murs de milliers d'immeubles jamais rénovés que des marchands de sommeil louent en vergogne. Alors, que fait la mairie? Trônant sur le Vieux-Port depuis près d'un quart de siècle, Jean-Claude Godin, 78 ans, s'apprête à vivre une fin de règne tranquille. Mais l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne réveille tout un peuple marseillais mu par la même rage. Notre invité aujourd'hui, Violette Artaud, journaliste pour le journal d'investigation marseillais Mars Actu. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
D'abord un grondement sourd, puis un mur de poussière qui s'élève en plein cœur de Marseille. Les pompiers battent en retraite. Ils viennent de provoquer l'effondrement d'un immeuble qui, depuis des heures, menaçait de céder. Un troisième bâtiment à terre, il jouxtait les 63 et 65 de la rue d'Aubagne. 4 et 5 étages tombés en quelques secondes et dont il ne reste pas.
14 novembre 2018, la nuit est tombée sur Marseille. Sur le parvis de l'hôtel de ville, les sapins fraîchement installés par les agents municipaux brûlent dans l'obscurité. La fausse neige crépite et disparaît dans les flammes. À Marseille, cette année, les fêtes de Noël seront de cendres et de poussière. Les visages de plusieurs centaines de manifestants sont éclairés par la lumière du feu qui souligne leur trait déformé par la colère. Car la journée était longue. Ils ont été jusqu'à 10 000 à traverser le quartier de Noailles en direction du Vieux-Port pour crier leur rage. Élus responsables, que la justice passe, sang sur les mains, menottes au poignet, mairie, métropole, région, tous coupables, peut-on lire sur les calicots. Et ces Godin assassins, répétés sans cesse par la foule endeuillée. À l'approche du palais de l'Édile, les forces de l'ordre chargent et gazent. Les manifestants ripostent, beaucoup fuient, mais certains s'acharnent, et la place s'enflamme. Sur les pancartes que tiennent encore à bout de bras les plus résistants, on peut voir les visages des victimes des effondrements de la rue d'Aubagne, dont les corps ont été dégagés quelques jours plus tôt des gravats de leurs immeubles effondrés. Leurs yeux sont braqués vers le balcon et la fenêtre du maire. Mais celle-ci est désespérément vide. Les fantômes de la rue d'Aubagne ne trouvent personne pour les regarder, personne pour les consoler, personne pour s'expliquer. Le vieux maire, lui, brille par son absence. Il ne démissionnera pas pour autant. Pas plus qu'il ne reconnaîtra les manquements de sa mairie.
Monsieur Godin, alors donc, cette mairie de Marseille, c'était la combientième fois que vous vous présentiez?
C'était la troisième fois, mais vous savez, c'est arrivé à d'autres personnages illustres de gagner que la troisième fois. Mais inutile de vous dire que je suis très, très, très heureux d'avoir gagné, que je remercie les Marseillaises et les Marseillais d'engager avec moi, avec Renaud Muselier, avec nos députés, le changement, l'ouverture pour faire de Marseille une ville à faire rêver le monde pour l'an 2000.
Quand le baron de la droite, Jean-Claude Godin, prend la mairie en 1995, c'est l'aboutissement d'une longue marche pour s'asseoir sur le trône, lui, l'adjoint, depuis 30 ans. Dès 1983, il a mené une liste d'opposition contre son mentor, malgré lui, le maire socialiste Gaston Defferre, 33 ans de règne. Jean-Claude Godin a tout appris de Gaston Defferre, les judicieuses alliances, les coups fourrés, le sens des priorités. Defferre a dessiné le paysage du nord de Marseille. Il fut le grand bâtisseur des cités HLM, les fameux quartiers nord avec le destin qu'on leur connaît. Jean-Claude Godin, lui, a redessiné la carte postale de la ville, avec pour objectif séduire les croisiéristes qui sont plus d'un million à présent à débarquer chaque année sur le Vieux-Port. Comme tous les grands rêveurs néolibéraux, Jean-Claude Godin a aussi fantasmé sa skyline, sa smart city, avec ses gratte-ciels ultra-modernes. C'est le grand projet euro-méditerranéen, dont les tours commencent à sortir de terre dans les années 2000. La modernité. Defferre et Godin n'ont bizarrement que ce mot à la bouche. ces deux maires omnipotents, près de 60 ans de règne à eux deux. On sort tout soigneusement délaisser le centre-ville et les quartiers historiques. Car ce n'est pas là, visiblement, que se joue la modernité, non. Personne ne s'en souvient, mais en juin 1960, en octobre 1973 et en décembre 1980, des immeubles déjà s'étaient effondrés dans le centre-ville, avec des morts à la clé. Gaudin, comme de fer, a appliqué la même politique pour se maintenir au pouvoir. Car dans le secret de la mairie, la recette magique pour la longévité se transmet depuis plus d'un siècle de mère en mère. C'est Jean-Claude Gaudin qui le dit lui-même, d'ailleurs, au journaliste marseillais Philippe Pujol, auteur du livre « La chute du monstre », écrit précisément après l'effondrement de la rue d'Aubagne.
« Elle n'est pas de moi, cette méthode. Elle est de Simon Flessière, le premier maire socialiste de la ville, qui lui aussi aura duré longtemps. À la fin du XIXe siècle, les villes de France s'équipaient toutes du tout à l'égout. Chaque propriétaire devait se raccorder dessus à ses frais. Et à Marseille, les petits propriétaires sont nombreux et ils n'aiment pas beaucoup payer. Alors, le maire s'est débrouillé pour que ce soit compliqué de mettre le tout à l'égout. Des pierres, des pentes, des problèmes. Il expliquait qu'à Paris, on ne l'aidait pas. En ralentissant le processus, il travaillait à sa longévité. Quand les gens ont vu comment le tout à l'égout était un progrès majeur, Simon Flessière s'est mis à trouver des solutions, mais doucement, rue après rue. Il était accueilli comme le Messie. Sa politique, elle était faite pour durer. Et moi, vous voyez, Pujol, je suis aussi fait pour durer.
Durer en laissant pourrir et en segmentant, voilà la stratégie. Et pour l'instant, alors que s'approche l'automne 2018, ça tient. Lors de ses derniers mandats, commencés à tout juste 74 ans, Jean-Claude Gaudin n'a jamais eu autant de pouvoir. La gauche est écrasée aux élections de 2014. La ville, elle apparaît plus fragmentée que jamais. D'un côté de la frontière, si je puis dire, le nord et le centre de la ville, qui comptent parmi les zones les plus pauvres de France. De l'autre, les arrondissements du sud, riches. Le rapport Nicole, du nom d'un haut fonctionnaire venu expertiser l'état du parc immobilier de la ville en 2015, ne dénombre pas moins de 40 000 taudis ou logements indignes et 100 000 Marseillais vivant dedans. De la fumisterie pour le maire. Pourtant, les chiffres ne mentent pas. En 2016, le rapport de Philippe Langevin, économiste de l'université d'Aix-Marseille, dénonce les terribles inégalités de la ville. Les 10% des ménages les plus riches gagneraient 15 fois plus que les 10% les plus pauvres. Sans compter la pénurie d'équipements publics, des écoles qui tombent en lambeaux, un réseau de transport atrophié, la ville est la plus embouteillée de France et recordman de la pollution. Mais peu importe la réalité, ce qui compte, c'est l'histoire de modernité que raconte le maire. Comme ici, lors de son discours d'ouverture du congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Nous sommes le 9 octobre 2018, un mois avant l'effondrement.
À Marseille, plus qu'ailleurs, les conditions de logement et d'habitat déterminent largement les conditions d'existence de nos concitoyens. Et c'est parce que nous en avons conscience que nous avons engagé de profondes transformations urbaines et remodelé la ville depuis plusieurs années.
En octobre 2018, Marseille est en ébullition. Au nord, le quartier ultramoderne euro-méditerranéen, symbole du renouveau de la cité, voit enfin s'ériger son nouveau gratte-ciel, accueilli en grande pompe. Le promoteur Marc Pietri, monument de l'immobilier marseillais, peut exulter.
Du haut de ses 135 mètres, elle est désormais incontournable sur le port de Marseille. La Marseillaise, c'est la nouvelle tour dessinée par l'architecte français Jean Nouvel. Avec sa grande sœur vieille de 7 ans, la tour du groupe CMA-CGM, la Marseillaise est le début d'une skyline ambitieuse dominant le front de mer.
Ce n'est pas que du béton, ce n'est pas que de la ferraille, c'est simplement un signal d'espoir. C'est un signal qui vise à dire que Marseille vit, la métropole vit et qu'on veut surtout vivre ensemble.
Que la tour de Jean Nouvel symbolise un nouvel espoir, rien n'est moins sûr pour la population marseillaise. En tout cas, pour l'instant, personne ou presque ne veut s'y implanter. Les bureaux de l'édifice peinent tellement à trouver preneur que c'est la mairie qui y installe ses services et qui paye les loyers exorbitants. De l'argent public donné à des promoteurs immobiliers privés pour les aider à bâtir des espaces finalement reloués à prix d'or au service public, la ritournelle est bien connue à Marseille. La politique de rénovation urbaine est basée sur cette idée d'allégeance au secteur privé pour construire des résidences fermées en lieu et place du bâti historique censé attirer des familles plus aisées. Bref, de la gentrification en kit, ou ce qu'on appelle communément dans les rues de Marseille, de la chasse aux pauvres. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne va pas très vite. Dans le centre-ville historique, qui concentre le plus de logements insalubres, seul le quartier du Panier, largement rénové car placé sur le chemin des croisiéristes, a bénéficié de la politique dite de « reconquête » du maire, lancée au début des années 2000. Mais dans les autres quartiers du centre-ville, Belzance et Noailles, l'heure est encore au pourrissement. En janvier de cette même année 2018, les habitants du quartier de Noailles sont suspendus aux lèvres de Gérard Chenoz, le président de la Soleam, le bras armé de la mairie de Marseille en matière de rénovation urbaine. Le quartier, qui est composé à 48% d'immeubles considérés comme indécents, dégradés, comme le stipule un bilan public présenté aux habitants, est en proie à toutes les tensions. Insalubrité, précarité, insécurité, c'est comme si la rue d'Aubagne et ses parallèles concentraient tous les maux. Lors de cette unique réunion d'information de janvier 2018, Gérard Chenoz annonce le report de tous travaux de rénovation dans le quartier jusqu'à au moins l'année 2020, donc suspendu au résultat d'une nouvelle étude. Voilà pourtant déjà 20 ans que le projet de requalification du quartier avait été lancé. À une centaine de mètres à l'est, la Soleam se montre toutefois beaucoup plus efficace pour mettre en œuvre son grand projet de réhabilitation de la place Jean Jaurès, la plaine comme tout le monde l'appelle à Marseille, épicentre de la ville underground. Et la colère gronde depuis de longs mois et en ce mois d'octobre, elle déborde.
Une manifestation a rassemblé près de 2000 personnes sur le Vieux-Port. Une marche contre le projet de réaménagement du quartier proposé par les pouvoirs publics.
Ce qui ne nous plaît pas dans ce projet, c'est qu'il s'est fait sans les habitants, sans prise en compte des usages et sans réelle concertation.
La place a besoin d'une rénovation, elle est laissée à l'abandon par la mairie depuis une dizaine d'années complètement, donc elle a besoin d'être rénovée, mais en respectant encore une fois les dynamiques locales, le vivant et l'existant.
Le projet de reconquête de la mairie n'inspire personne, parce que tout le monde craint une défiguration totale de l'esprit du lieu. Un ravalement de façade juste bon à faire plaisir aux croisiéristes et à faire déguerpir les pauvres. La place devient alors le théâtre d'une lutte qui dépasse de loin son simple enjeu. C'est toute la politique de rénovation de la ville qui est sur le grill. En ce mois d'octobre 2018, la place est prise d'assaut par les associations de défense de quartier et des militants venus de Notre-Dame-des-Landes, oui, pour prêter main forte, pour édifier une ZAD, oui, une ZAD, l'épouvantail pour la mairie. La situation s'enlise et Gérard Chenoz, celui qu'on surnomme ici le Taliban municipal, doit sortir l'artillerie lourde, comme il s'en explique au micro de France 3.
Je dois sécuriser le chantier, à la fois pour les ouvriers, mais aussi sur les riverains. Aujourd'hui, on a été obligé de mettre des palissades beaucoup plus hautes, puisqu'elles vont faire 2,50 m, ce qui est considérable, hein, beaucoup plus solides, parce qu'elles sont en béton. Et on essaye, malgré la gêne que ça va faire pour tous les riverains, on essaye que ça dure le moins possible, que le calme revienne, que la raison l'emporte, et que les CRS ne soient plus là, et que le chantier puisse continuer pour le bien de tous.
Un mur gigantesque à 400 000 euros s'élève en quelques heures autour du chantier. Personne ne pourra plus entraver la bonne marche des travaux, comme un rempart dressé entre la mairie et le mécontentement des habitants. Le 1er novembre, les manifestants de la plaine, qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, déferlent dans les rues aux alentours.
Un long cortège funèbre accompagne jusqu'à la plaine le petit cercueil de la concertation. Une manifestation digne et pacifique pour soutenir les habitants du quartier dans leur chagrin. Un simulacre d'enterrement, mais aussi des funérailles qui marquent la fin d'une époque à Marseille.
Ah, on enterre un petit peu une forme de gaieté qu'il y avait dans le quartier, ou en tout cas, il y a une forme d'insouciance aujourd'hui qu'on enterre. Ouais.
En marchant vers la plaine, le cortège passe au milieu de la myriade des shops et de petits restaurants du bouillonnant quartier de Noailles et remonte lentement la rue d'Aubagne, passant devant les numéros 63, puis 65. Dans 4 jours, Il faudra venir y déterrer les morts. Ces jours-ci, Abdel, qui habite au 65 de la rue d'Aubagne, commence sérieusement à s'inquiéter. Pas assez, cela dit. On ne s'inquiète jamais assez quand son immeuble est sur le point de s'effondrer. Car les fissures qu'il avait remarquées sur la façade extérieure se répercutent à présent à l'intérieur, comme des cicatrices de plus en plus béantes qui lézardent les murs de la cuisine. La situation se dégrade à vue d'œil. Cela fait des semaines déjà que lui et ses voisins éprouvent les pires difficultés pour ouvrir et fermer leurs portes d'entrée, comme si tout l'immeuble s'était tassé. Et puis, un autre phénomène a déjà particulièrement alerté Sophie, qui habite au-dessus. Dans le hall d'escalier, elle a remarqué que le mur était totalement affaissé. Alors elle a prévenu le syndic, mais un expert est venu le 15 octobre. Tout l'immeuble est alors évacué en vitesse par les marins-pompiers. Reconnaissant un péril imminent, l'expert ordonne dans son rapport daté du 19 octobre des travaux de consolidation du mur en question et l'évacuation d'un appartement, mais au premier étage seulement. Le plancher rongé par l'humidité menace de s'effondrer. Voilà, c'est tout. Les locataires des étages au-dessus sont priés de regagner leurs appartements le soir même. Dormez tranquille. Mais le 4 novembre 2018, Sophie, pas rassurée, quitte la rue d'Aubagne et dort chez ses parents. Abdel, de plus en plus inquiet et tout aussi déterminé à confronter le syndic, enregistre une vidéo de l'état de son appartement. Dans celle-ci, on entend toute son inquiétude, mais aussi des bruits sourds à l'étage, comme ceux de quelqu'un qui frapperait contre sa porte.
Qu'est-ce que c'est que la cuisine ? J'ai déjà plus fermé la porte. Décalage, ici, plusieurs centimètres. Il y a une urgence. Cette porte fermée, elle ne se ferme plus. En quelques heures, ça s'est aggravé.
Le 5 novembre 2018, au petit matin, Abdel quitte son appartement. Sur le chemin du retour, il est surpris par un bruit infernal et un nuage de poussière qui s'élève de sa rue. Un nuage qui passe lentement au-dessus des toits rouges du quartier de Noailles pour rejoindre le ciel de Marseille. Partout. Des quartiers nord jusqu'aux villas qui bordent la corniche Kennedy, des tours en verre d'Euroméditerranée aux abords du rutilant stade Vélodrome rénové. Tous les Marseillais peuvent le constater, le cœur de leur ville s'est effondré.
Et du con, si je pose autant de questions, c'est que j'ai pas les solutions. Que faire quand y'a rien à la clé de nos bonnes résolutions? Ça peut plus durer, combien se laisseront jurer pour finir sous une pierre tombale ou devant les jurés? Dommage qu'il n'y ait pas toujours de récompense à nos efforts, qu'à la moindre erreur, la justice nous fasse payer le prix fort. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, les moyens du bord, mais la devise reste, sauf ce qui peut encore l'être, femme et gosse d'abord. Je pleure pas sur mon sort, y'a pire que moi. À l'heure où tu m'écoutes, au-dessus de ta tête, t'as peut-être plus de toi. Mon job n'est pas de morcir ce tableau. De toute façon, c'est pas de ma faute si la misère meurt, le pire des fléaux. On cherche pas à s'enrichir sur les malheur des autres, toutes les vérités sont bonnes à dire et même les nôtres. Au cours d'une vie, y'a tout un tas de trucs qui s'oublient pas. Tel le décès de ton gosse avant qu'il puisse faire ses premiers pas. Ses premiers pas. Notre issue finale, seul avenir le dira. Du seul c'est comment ça se finira ou négociera. Mystère et suspense, soit en colle, soit en Benz neuve. A fonder une famille au top ou à laisser une femme veuve. Et toute une flopée de petits sacs derrière. La vie tient à peu de choses, cette phase pourrait être ma dernière. Quand je quitte mes gars, qui dit que je vais les revoir? Je suis pas à l'abri de la bavure du mec qui me dit faire son devoir. T'es honte d'une fan qui aurait pété les plans. Voudrait me buter comme John Lennon, Martin Luther ou Malcolm. Tout mec incertitude, c'est l'embrouille. Dur de voir clair au milieu de ces turpitudes. Dédié à ceux et celles qui mènent des vitiers. Je rapporte la mienne et t'as l'impression que je raconte la tienne. C'est l'effet FF, dégâts plus vrais que nature. Ce côté pied sur terre et à la fois immature. Quand je plane comme Bob Marley, je sais plus si c'est moi ou la route qui est en train de parler. Je compte plus voir la vie réaliser mes vœux. Mais si je crève, j'aurais vu naître le hors-série volume 1. Et si Dieu veut sur ce, avant de dire au revoir à jamais. J'ai sûrement tout un tas de trucs à connaître, des preuves à surmonter. Peu importe, tant que les miens sont à mes côtés, je ferai peut-être partie de ceux sur qui il faudra compter.
Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout ça. Emmerder le système, peu importe la manière, forte ou douce. Chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce. Chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage.
Affaires sensibles,
Avoir l'État tirer la révolution.
Sur France Inter.
L'événement n'est pas passé inaperçu dans les réseaux sociaux mardi soir, pendant que les secouristes tentaient de retrouver des victimes ensevelies sous les décombres des immeubles rue d'Aubagne. Une soirée chocolat était organisée à la mairie du 6-8 de Marseille. De quoi, imaginez-vous, alimenter un peu plus encore la polémique et la colère des Marseillais, scandalisés par l'attitude de certains élus.
Erreur de communication, maladresse ou mépris, la tenue de cette soirée gourmande en présence d'élus relayée sur leur page Facebook est perçue par les Marseillais comme une provocation d'une vulgarité inouïe. C'est même la goutte qui fait déborder le vase. Car en ce jour de catastrophe, la mairie de Marseille s'est d'abord illustrée par un surprenant communiqué. Ce dramatique accident pourrait être dû aux fortes pluies qui se sont abattues sur Marseille ces derniers jours, déclare-t-elle dans une première réaction officielle. Pas vraiment le genre de réponse qu'attendent les habitants. La pluie comme seul coupable ne suffira pas à épancher leur soif de justice. Ce n'était pas la pluie. La formule sera un jour taguée sur le mur de la honte du chantier de la Plaine. Un peu plus tôt encore, dans cette journée maudite du 5 novembre 2018, quand Jean-Claude Gonin arrive devant les immeubles effondrés de la rue d'Aubagne, accompagné par le ministre du Logement, tout le monde perçoit au ton du maire son état d'affolement. Le désastre annoncé est là, sous ses yeux. Un amoncellement de gravats duquel les marins-pompiers de la ville sortent un à un les corps écrasés de 8 citoyens. L'un des deux immeubles, le 63, appartenait à Marseille Habitat, le bailleur social de la mairie.
Il y a une politique municipale qui est menée avec l'État sur le logement insalubre. Ce que nous souhaitons, les élus locaux, c'est que quelquefois ça aille plus vite. Mais on détermine bien entendu et on sécurise autant qu'on le peut celles et ceux qui pourraient être en danger. Voilà la réalité des choses. Voilà la réalité des choses. Le 63, il avait fait l'objet justement d'une procédure, il était fermé. Et répétez-le encore une fois, il était fermé.
Dans la journée suivant le drame, le numéro 67, maintenant à feu 65, est détruit à coups de tractopelle. Dans la rue, de nombreux habitants doivent quitter leur logement dans la seconde. Leurs immeubles sont murés tout aussi vite. La rue d'Aubagne se vide sous les yeux des riverains abasourdis. Les morts, dont les corps sont à présent tous exhumés, retrouvent une identité, peu à peu. Il y a Simona, Nias, Fabien, Julien, Taher, Shérif, Marie Ouloum. Et la stupeur devient colère. Une première marche blanche est organisée le 10 novembre. Elle réunit 10 000 personnes. Mais ce jour-là encore, c'est comme si toute la ville était maudite.
Un morceau de balcon qui s'effondre en pleine marche blanche. Inimaginable et pourtant. Alors que des milliers de Marseillais venus marcher en mémoire des 8 victimes défilent, un balcon cède, blessant légèrement 3 personnes.
Je me dirigeais pour rejoindre la marche blanche. J'ai entendu un grand bruit, je me suis retournée, j'ai constaté un balcon qui venait de s'écrouler avec une dame dans les décombres et une femme qui hurlait.
La psychose s'empare de la ville. Tout le monde se met à craindre l'effondrement de son immeuble et la mairie multiplie les arrêtés de péril imminents, ce qu'elle n'a jamais osé faire pour le 63 et le 65 de la rue d'Aubagne. Au jour du 18 novembre 2018, soit 13 jours après le drame, 1054 Marseillais ont déjà été délogés, 111 immeubles sont fermés. Dans les rues du centre de Marseille, les rubans rouges et les plots en ciment remplacent les linges qu'on fait sécher aux fenêtres. Les immeubles sont fermés les uns après les autres. Depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui, c'est plus d'un millier de bâtiments qui sont murés et évacués chaque année. Et plus de 5000 habitants qui ont tout quitté en quelques minutes pour rejoindre des chambres d'hôtel aux abords de la ville. Beaucoup n'ont toujours pas été relogés. Du trou béant laissé par les immeubles effondrés, la dent creuse, comme on l'appelle ici, c'est comme si tout le mal qui ronge la ville depuis des décennies s'échappait pour se répandre sur Marseille. Dès le lendemain de l'effondrement, une gigantesque investigation est lancée, mobilisant une centaine d'enquêteurs de la police judiciaire et 12 magistrats du parquet de Marseille. La ville entière est passée au crible et les révélations font frémir. La cité phocéenne est au bord du chaos.
Dans la ville, l'indignation gronde. L'enquête, elle, se poursuit. Hier, à Marseille, plusieurs perquisitions ont eu lieu dans les services de l'urbanisme.
à Marseille Habitat, propriétaire de l'un des immeubles effondrés, et même à la mairie. Des services municipaux dans le viseur de la police et des élus au cœur de la polémique. L'un d'entre eux, Xavier Cachard, conseiller régional PACA, possédait un logement au 65 rue d'Aubagne. Jamais il n'a tiré la sonnette d'alarme. À ceux qu'il accuse d'inaction, lui se défend.
Deux experts judiciaires indépendants n'ont pas été en mesure d'anticiper l'effondrement de l'immeuble. Comment moi, qui ne suis pas un professionnel de l'immobilier, aurais-je pu le faire ?
Xavier Cachard, bientôt rejoint par deux autres élus accusés d'être des marchands de sommeil, n'en pointe pas moins une vraie réalité. Car dans cette affaire, les responsabilités vont être très difficiles à déterminer. Les propriétaires des appartements du 65 rue d'Aubagne apparaissent logiquement comme les premiers dans le viseur des enquêteurs et des journalistes. Auraient-ils dû s'inquiéter de l'état de l'immeuble dans lequel ils louaient leur appartement ? Première question. Aux yeux de cette vieille dame qui recevait une petite rente de 450 euros par mois, versée par un locataire morcelé d'écombres, rien n'est moins sûr. Elle est interrogée à visage couvert par les journalistes d'Envoyé spécial.
On n'est pas responsable, c'est terminé. Moi, j'ai la conscience tranquille.
Et alors, est-ce que quand vous alliez là-bas, vous aviez l'impression qu'il y avait un gros souci dans cet immeuble ?
Même pas.
Et vous, vous en voulez pas de pas avoir vu que l'immeuble, il était dangereux pour les locataires ?
Bien sûr. Et si j'y comprends rien, qu'est-ce que j'y passe ? J'ai pas la tête de quelqu'un, à 450 euros, et l'appartement tout refait, double vitrage.
Alors, qui savait ? Qui aurait pu agir et éviter le drame ? Les différentes enquêtes et informations judiciaires mettront plus de 2 ans à aboutir sur des mises en examen. Qui a fauté ? Si personne ne pouvait deviner que les immeubles allaient s'effondrer, les enquêteurs mettent en évidence la multitude d'alertes et de signes avant-coureurs. Une longue suite d'occasions manquées qui nous plonge dans un abysse vertigineux d'incompétence. Retour dans la rue d'Aubagne, donc. 13 ans en amont. Depuis 2005, le 63, le 65 et le 67 ont fait l'objet de pas moins de 9 expertises. Depuis le milieu de la décennie 2000, les propriétaires des 3 immeubles étaient en guerre et se disputaient la charge des travaux de rénovation à effectuer sur les murs mitoyens. Car en 2005 déjà, ceux-ci étaient en piteux état. En 2009, un rapport inquiet mentionne des infiltrations d'eau dans les sous-sols des numéros 61 et 63. En 2014, l'expert Rénal Filipputi envoie un courrier recommandé à la mairie et son service de prévention des risques, le seul à même de prendre la décision de faire évacuer. Ce rapport mentionne les risques encourus par les locataires du 65, écrit en toutes lettres, et demande des travaux de consolidation urgents et importants. La mairie ne répond pas. 2017, bis repetita, le même expert envoie un courrier similaire au même service. Là encore, lettre morte. La même année, le numéro 63 passé sous pavillon Marseille Habitat est vidé et muré, peut-être en fera-t-on une crèche, dit-on. Mais pas de travaux de consolidation, aucun. Le bâtiment se désagrège doucement. Le 26 septembre 2018, un mois avant l'effondrement, un rapport détaillé mentionne un péril à court terme. Il est envoyé à toutes les parties intéressées, dont encore le service de prévention des risques de la mairie. Troisième alerte donc, et toujours silence radio. Julien Roys, l'adjoint en responsabilité, s'en explique, mais péniblement, au micro France 2.
Vous l'avez lu, monsieur Ruas, ce rapport,
je dois
j'imagine
vous, je dois vous confesser que non. Mais par contre, je sais qu'il existe.
Vous l'avez pas lu ?
Ah non, je ne l'ai pas lu. Vous savez, moi j'ai eu connaissance de ce rapport 4 jours après l'effondrement des 3 bâtiments. Et je dois vous avouer que depuis le 5 novembre, je suis quand même sur une gestion de crise au long cours. Et en même temps, la justice s'est saisie de toutes ces pièces et c'est la justice qui va nous dire les responsabilités des uns et des autres.
Il faut dire, comme on le découvrira plus tard, que seuls 2 employés de la mairie étaient chargés de gérer la question des logements indignes. 2 employés pour une ville qui dénombre 40 000 taudis. Le 25 octobre 2018, 11 jours avant l'effondrement, c'est la dernière chance. Toutes les parties prenantes du litige pour la rénovation des immeubles, soit les différents propriétaires des 63, 65 et 67, se retrouvent pour une dernière expertise avant les travaux. Pour cela, ils visitent les locaux. En entrant dans le numéro 63, ils n'en croient pas leurs yeux. Les planchers sont effondrés. Une partie de la toiture arrachée. L'eau s'infiltre partout, jusque dans les fondations des immeubles attenants. Tout le monde semble découvrir la situation, ou en tout cas, fait semblant. En entrant dans le 65, l'expert rénal Philippe Utti, celui qui avait lancé l'alerte en 2014 et en 2017, est soudainement atteint de cécité. Un ballot de bois, censé supporter tout le plancher du premier étage, est sorti de son axe, fragilisé par l'humidité, et il semble prêt à céder. Il apparaît nettement sur les photos de l'expert, et le compagnon d'une des copropriétaires le remarque. Il alerte même sur l'imminence du péril. Mais rien n'y fait. Monsieur Philippe Utti ne le note pas. Trop tard. Donc, aucune évacuation n'est ordonnée. Le 5 novembre à 9h05, le pauvre poteau de bois, rongé pendant de longues années par les eaux de pluie, cède. Le plancher du premier étage s'écroule et tout le poids de l'immeuble se déporte alors sur les murs mitoyens, fragilisés par des décennies de moisissures. Il aura fallu un poteau et des années d'indifférence des pouvoirs publics. Le 63 et le 65 s'écroulent en quelques secondes, emportant avec eux 8 vies. Dans ses vœux à la presse, 3 mois plus tard, Jean-Claude Godin, qui s'est muré dans le déni puis dans le silence depuis les effondrements, peut bien encore évoquer la pluie. Cette maudite pluie de la rue d'Aubagne qui hantera à jamais le souvenir que les Marseillais auront de lui.
Ce drame qui a coûté la vie à 8 habitants restera à jamais gravé dans ma mémoire de maire et il le restera tout autant dans ma vie d'homme. Je pense quand même que dans ces immeubles anciens, très anciens, l'automne que nous avions eu où il avait plu abondamment, a peut-être aussi contribué. C'est pas la raison majeure, bien entendu. C'est que ces immeubles étaient dans un tel état. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire. Mais permettez-moi, comme vous la connaissez par cœur, laissez-moi sortir de la rue d'Aubagne.
Toute la question maintenant est de savoir si Marseille est vraiment sortie de la rue d'Aubagne.
Sourire et les faux semblants, et quelques gouttes ont suffi à l'élixir pour être mortel, que des caisses noires dans le cortège. Des trois pièces et des longs impairs qui cachent les guitares, des refs aux mitards, les faits d'hiver en hiver. J'ai fait 100 000 avant le mi-père, je m'entraîne à sourire devant la glace, je m'entraîne à souffrir sans remède. La petite maison est en ruine, quand la faim pense, le cœur est en grève. La vie c'est mener les bons choix, l'image vient sans même une esquisse. Dans le dos, les chlasses traversent la Redskins. La trahison des gens qu'on estime. J'ai pas vu père fermer les paupières. Tête dans le guidon, c'était le frigo. Une chaîne de vie à se lever aux aurores. J'aurais jamais su comment faire. Non. J'aurais jamais su comment perdre avec la haine de ceux qu'on enferme. Et quand les yeux se ferment et que tout est noir, quand les mots se perdent. Tu veux tuer un homme, prends du sky et des faux espoirs. Et quand les mômes se perdent dans les sinueux couloirs des enfers, on sera de retour 2 minutes avant que les revolvers leur jouent du tonnerre. Ouais, l'orage est parti, où est le soleil? Mon deuil n'est pas fait, où est mon sommeil? Je parle de vraies choses qu'on vit ici, de vraies flammes qu'on a tenues, d'un vrai sang qui s'est versé, de la seule femme qui m'a bercé, de vrais potes qu'on a perdus. Pensées noires et des nuits blanches, des armes, des enfants terribles, le béton, le bruit du ciment, là où on veut pas finir en terrible. Des gens m'ont trahi, j'ai la nausée. Je dépose un flingue et quelques roses sur le verso d'un livre usé. Énumérer ce que j'y ai laissé, prendre un maximum pour papa, comme si j'allais les faire renaître. Entre les morts comme un dieu grec, tous les bleus que j'ai autour du cœur, tous ces billets froissés dans mon sac. Trop jeune pour embrasser le plomb, mais trop jeune pour vivre tout ça. Des bons salines dans la nuit. Des portes flintons dans la ville. Tu sens à éponger dans la cuisine. Des billets qui flottent dans la piscine. Little Italy. Corleone sous Michael. Marie Curie dans la comtesse. Là où le ventre est le prompteur. La fin justifie la violence. Là où la violence est la réponse. Là où la violence est le moteur. Là où la violence est le docteur. Vivons cachés, vivons gantés. Faisons le tour du monde entier.
avant qu'une balle nous arrête. J'y vais L-I-V-S.
Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, dont nous allons parler avec notre invitée Violette Artaud. Bonjour. Vous m'entendez ?
Bonjour Fabrice.
Parfait.
Je vous entends.
Bien, vous êtes journaliste à Mars Actu, journal en ligne marseillais qui suit depuis longtemps la question des logements indignes dans les quartiers du centre-ville de Marseille. Cela dit, vous ne vous intéressez pas qu'au logement. Quelle est la ligne éditoriale de Mars Actu ? C'est intéressant de découvrir aussi le panorama de la presse hors Paris. Il n'y a pas que Paris dans la vie.
Non, il n'y a pas que Paris dans la vie, effectivement.
La preuve, on parle de Marseille.
C'est ça, et je suis d'ailleurs en direct de Marseille. Mmh. Notre ligne éditoriale, en fait, on a un journal local d'investigation. Donc, on cherche à établir des faits, à faire de l'enquête au long cours pour essayer de démasquer des injustices, tout ce qui se rapporte à l'intérêt collectif, à l'intérêt public nous intéresse.
Vous êtes allé sur les lieux du drame, quelques dizaines de minutes, je crois, après l'effondrement. Pouvez-vous nous raconter ce moment, ce que vous en avez retenu, vous ?
Alors, effectivement, ce 5 novembre 2018, j'arrive un petit peu en avance au bureau, ce qui m'arrive pas souvent, je dois le dire. Et donc, il n'y avait pas grand monde à ce moment-là à la rédaction, si ce n'est mon rédacteur en chef, qui était au téléphone. J'écoute pas vraiment ce qu'il dit, je le laisse terminer sa conversation, et puis là, il raccroche avec l'air grave, mais sans savoir exactement ce qui se passait, et il me dit « Violette, il y a un immeuble qui s'est effondré à Noailles, donc un quartier qui se situe à proximité de notre rédaction, hein, je pense à 10 minutes à pied, est-ce que tu peux aller voir sur place ?» À l'époque, moi, je commence ma carrière de journaliste. J'étais un peu le pompier de service, hein, sans aucun péjoratif.
Mmh. Ouais. Ni jeu de mots.
Tout à fait. Et donc, ni une ni deux, je prends mon sac et je pars sur les lieux sans savoir vraiment sur quoi j'allais tomber. On n'avait aucune idée de la cause de ces effondrements. Hein. Je me rappelle, en marchant, je me demandais même si c'était pas une bombe, un attentat. Enfin bref, on n'en savait rien. J'arrive sur place, donc je pense une demi-heure après les effondrements. Les secours sont là. Ils sont en train de mettre les rubalises. Donc les pompiers mettent les rubalises autour de l'immeuble qui s'est effondré. C'est très calme à ce moment-là sur la place. Il y a quelques habitants qui arrivent. Tout le monde est dans une espèce de sidération, de silence. Il y a encore de la fumée, hein, enfin de la poussière. Et petit à petit, on regarde ce tas de sable, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un trou au milieu du quartier qui ressemble à un tas de sable. Et on commence à prendre conscience que peut-être, sous ce tas de sable,
Il y a des gens.
Et donc, je prends mon carnet, je commence mon boulot de journaliste à poser des questions aux gens qui sont là, sur place. Et je me souviens, la première personne à qui je parle, c'est une vieille dame qui est sur les lieux, qui regarde le trou béant sans rien dire.
Oui.
Donc, je vais la voir, je m'approche doucement, je lui demande si elle sait ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'elle fait là. Et en fait, en lui parlant, je comprends qu'elle est propriétaire de l'un des appartements de l'immeuble qui s'est effondré, donc du 65 de la rue d'Aubagne. Et je lui demande pourquoi elle est sur place aussi rapidement, si quelqu'un l'a alertée, et surtout si elle a une locataire. Elle me répond qu'effectivement, elle a une locataire et que c'était pour la voir qu'elle était venue. Je lui demande si elle a des nouvelles et elle me dit « Non, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas essayé de l'appeler, mais rendez-vous compte, je venais de faire 10 000 euros de travaux. » Et c'est sur cette première interview que commence mon travail qui a duré en fait des mois, voire des années.
Alors, en quoi l'effondrement de la rue d'Aubagne a-t-il été, s'il a été d'ailleurs, un moment de rupture dans l'histoire récente de Marseille ? Une date ? Un point de bascule ?
Je pense que il a révélé en fait une situation qui était bien ancrée et qui était diffuse sur toute la ville. Mais la rue d'Aubagne, elle a mis à nu cette situation de l'habitat indigne. Elle a montré aux yeux de tous que la mairie, que les pouvoirs publics en général, hein, parce que la mairie n'est pas la seule responsable, ne s'occupaient pas de cette problématique-là, et que des gens vivaient dans des habitats qui pouvaient être dangereux pour eux, voire qui pouvaient causer la mort.
Et la perte de la mairie par la droite est-elle la conséquence directe de cet événement tragique, à votre
Alors,
avis ?
Alors, je ne suis pas politologue, donc
Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on en dit, quoi ?
Je ne sais pas si ça a causé directement la perte de la mairie de la droite. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça a écorné la famille politique de Gaudin. Gaudin l'avait dit clairement qu'il arrêterait la politique, hein, de toute façon. Donc peut-être que lui directement, je ne sais pas si ça a causé sa chute. En tout cas, son image a été énormément amochée par cet incident, par cet accident, par ce drame. Et tous les gens proches de lui, on l'a vu hein, après, dans les semaines, les mois, les campagnes qui ont précédé, ont essayé de mettre une distance avec lui, comme si il était un peu le seul responsable et que tous les gens qui gravitaient autour de lui n'avaient aucun lien avec les effondrements de la rue d'Aubagne.
Quand vous dites que la mairie n'est pas la seule responsable, vous pensez à qui ?
Alors, bon, là, il y a une enquête hein, qui finira par dire les responsabilités.
Oui, bien sûr,
on verra
bien sûr.
Jusqu'où elle
Mais qui pourrait
remonte,
être responsable
mais, bah, l'État, par exemple.
Oui.
Je crois que les pouvoirs publics en général, en fait, on parle de la police du maire, hein, qui est censée veiller à ses administrés, à faire en sorte qu'ils ne prennent... Enfin, à veiller au risque, quoi. Mais pour l'État, c'est la même chose. Et... dans ce cas-là, personne n'a bougé.
On va se retrouver, Violette Artaud, dans 3 minutes et parler de cette politique de rénovation urbaine menée par la mairie de Jean-Claude Gaudin, essayer de comprendre pourquoi un tel désintérêt pour la question des logements indignes. A tout de suite après Kendrick Lamar, Rich Priest.
Taking my baby to school, then I pray for it. Cause you bitches ain't never been cool. Writing testament, painting pictures, put me in the Louvre. That's a definite universal shift. I'm in the groove. A celebrity do not mean integrity, you fool. I'm a good man, shake your hand, firm grip rule. 72 wins, lost 10, balling with the flu. More than 2 M's for sure, but add another 2. Lil' man, the big man, it's a GT down and flipping the kickstand. Rich nigga, broke phone. Tryna keep the balance, I'm staying strong. Stop playing with me before I turn you to a song. Stop playing with me before I turn you to a song. Hey, bitch, I'm attractive. Can't fuck with you no more, I'm fasting. Bitch, I'm attractive. Can't fuck with you no more, I'm fasting. The morality can wait, feedback on low latency. I'm glitching from the face as my thoughts grow sacredly. I'm running out of space, ask Winnie, she okay? Never mind a 100K, why you lying on Benjamin? He turning in his grave. I'd be lying if I said I wouldn't get it. Shit away, the aloof Buddha. I'm Christ with a shooter. Praise to Muhammad, I might make a loser. AP, Michael Friedman, my friend's cooler. Primary soda resale, face stupid. I would never love my life on a computer. IG, I get you life for a chikabuya. More power to you. Love him from a distance. Why you always in the mirror more than the bitches? And my cousin tried to sue me like he got the privilege. But I didn't lose sleep cause I got the spirit. Hey, rich nigga, broke phone. Tryna keep the balance, I'm staying strong. Stop playing with me before I turn you to a song. Stop playing with me before I turn you to a song. Hey, bitch, I'm attractive. Can't fuck with you no more, I'm fasting. Bitch, I'm attractive. Can't fuck with you no more, I'm fasting. That brother, real nigga, that brother. We just up the score, give me that brother. Spirit medium, on rap brother. We headed there now, are you strapped brother? Hey, peacemaker, but I'm not naive brother. Hey, gotta watch your homies and police brother. Hey, cloud chasing, hell of a disease brother. I'm fasting, 4 days out the week, brother. I pray to God that you realize the entourage is dead. I pray to God that you not lagging when you off the meds. I pray to God she know them Cabo chips don't last forever. Bitch, I argue with her mama, go and get them kids. I pray to God you actually pray when somebody dies. Thoughts and prayers, way better off timelines. False claiming, not cute, I'm mortified. The new earth in high pursuit, 200 lives. Bitch nigga, broke phone. Tryna keep the balance, I'm staying strong. Stop playing with me before I turn you to a song. Stop playing with me before I turn you to a song. Hey, bitch.
bitch, I'm attractive. Can't fuck with you no more, I'm fasting. Bitch, I'm attractive. Can't fuck with you no more, I'm fasting.
France Inter. Affaires sensibles.
Violette Tartaud, vous êtes notre invitée. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mars Actu, journal marseillais, que vous êtes marseillaise. Comment caractériser la politique de rénovation urbaine menée par la mairie de Jean-Claude Gaudin? Ce ne sont pas que des immeubles qui s'effondrent, ce sont aussi des immeubles qui s'effondrent.
En fait, elle a été, alors je vais pas dire quasiment inexistante, mais ce qu'on me traiterait de marseillaise, mais quasiment. C'est-à-dire que, en fait, les services de la ville, ceux qui sont censés gérer les risques urbains, n'allaient pas sur place suite au signalement pour vérifier tout simplement que les gens vivent dans des logements décents et en sécurité. Elle est censée, la mairie, se substituer en cas, quand il y a des propriétaires indélicats qui réalisent pas les travaux. Donc la mairie doit faire des travaux d'office, chose qui a pas été faite. Hein, si je dois citer un chiffre, on peut dire que sur 5 ans, seulement 15% de l'enveloppe qui est censée être attribuée aux travaux d'office a été utilisée. Donc c'est rien. Le service en lui-même, c'était 2 personnes à l'époque.
Oui, c'est ça.
Donc,
pour 40 000 taudis.
Personne ne... Ouais, et 40 000 taudis. Je crois que Marseille est gangrénée par l'habitat indigne et que Jean-Claude Gaudin et son équipe ont fait le choix de ne pas regarder ça, de ne pas pousser la porte et de ne pas aller voir chez les gens.
Mais précisément, pourquoi un tel désintérêt? C'est ça qui nous titille, de savoir pourquoi un tel désintérêt. En plus, c'est quand même le centre-ville,
parce que
c'est l'image de la ville.
Était orientée.
Oui, moi.
Eh ben non, en fait, parce qu'on s'en rend pas compte, je le répète, mais si on pousse pas à la porte des gens et si on va pas voir dans quoi ils vivent, on se rend pas compte que à Marseille, il y a des gens qui vivent, excuse-moi, je vais être un peu vulgaire, mais qui crèvent dans leur pisse, dans des appartements où les enfants passent au travers des planchers parce qu'ils s'excitent un peu et qu'ils sautent dans la cuisine, où la pluie arrive directement dans le salon et qu'on doit mettre des seaux de partout pour éviter ça. Jean-Claude Gaudin, il a choisi d'orienter sa politique vers la façade, la vitrine. Donc, pour les touristes, les croisiéristes, il a fait de Marseille une ville pimpante. Voilà, nous, on parle de strass et paillettes, mais il n'est pas allé gratter, ils ne sont pas allés voir derrière la façade comment les gens vivaient.
Et les grands projets de Gaudin, Vélodrome, UCM, Euro-Méditerranée, ont fait diversion dans l'opinion ou pas?
Oui, je pense, c'est possible. Pour le coup, il avait annoncé qu'il referait le stade, qu'un nouveau quartier sortirait de terre. Et c'est vrai qu'on le voit, tout le monde le voit. Enfin, là-dessus, en tout cas, il a réussi et on peut dire qu'il a validé certaines de ses promesses. Ça me fait penser à, pendant l'enquête sur la rue d'Aubagne, Jean-Claude Gaudin, même s'il n'est pas mis en examen aujourd'hui, il a été auditionné, il a été entendu et il a eu une phrase terrible où... Il dit que, en fait, ce qui importe aux Marseillais aujourd'hui, c'est le vieux port, la bonne mer et le stade. Et que s'il avait écouté la CRC, donc la Cour régionale des comptes, qui a pointé l'absence de politique sur l'habitat indigne, il n'aurait jamais fait le stade Vélodrome.
Ouais. Alors, côté population maintenant, est-ce que toute la contestation, la colère, les rassemblements étaient composés de gens directement touchés ou de riverains du quartier, ou est-ce que d'autres Marseillais, d'ailleurs, de la ville, venaient les soutenir?
Alors, très peu. Je pense que la contestation qui a fait suite aux effondrements de la rue d'Aubagne avait un terreau très militant, des militants de gauche qui ont saisi et qui ont été touchés par cet événement dramatique et qui l'ont relié à leur lutte qui avait commencé un peu plus tôt, comme vous le racontiez dans votre récit, sur la rénovation de la plaine.
Oui. Et oui, autrement dit, au Roucasse Blanc, par exemple, on détourne même pas le regard. On s'en fiche. Ça n'existe pas, ces histoires-là.
La rue d'Aubagne.
Oui, c'est ça. En fait.
Je pense qu'elle est très loin. Je pense qu'elle est très loin oui. du Roucasse Blanc. Oui, c'est certain. C'est certain. Je sais pas. Je suis pas allée sonder tous les manifestants
bien sûr.
À ce moment-là, mais je ne pense pas qu'il y en avait beaucoup du Roucasse Blanc, ni des quartiers nord non plus. Ces manifestations, même si elles étaient conséquentes et qu'elles ont rassemblé énormément de Marseillais, elles n'ont pas non plus rassemblé toute la ville là-dessus.
Alors, l'enquête judiciaire est loin d'être close. Le procès ne devrait pas avoir lieu avant, dit-on, 2025-2026. C'est loin. Pouvez-vous en dire plus? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation judiciaire actuelle? Qui est mis à l'examen? Qui risque quoi?
Alors, donc l'enquête, elle a commencé. Déjà, c'est une enquête pour homicide involontaire. Hein, il faut le noter. Elle a commencé très rapidement après les effondrements, le jour même. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une enquête de flagrance, où voilà, les enquêteurs ont essayé de récupérer un maximum de documents. La justice a mis d'énormes moyens sur cette enquête. Il y a actuellement trois juges d'instruction. Avec des promesses de rapidité et de mise en examen très rapide. Aujourd'hui, il y a la première mise en examen symbolique qui est tombée, c'est celle de Marseille Habitat, donc la société publique de la ville, le bras armé de la ville pour résorber l'habitat indigne. L'adjoint à la sécurité, Julien Ruas, qui ne pouvait pas ne pas se douter de la situation, et comme vous le racontiez tout à l'heure, des experts. Je crois que énormément de Marseillais auraient aimé que la justice remonte la chaîne de responsabilité encore plus haut. Ça, pour l'instant, je crois qu'on peut pas le dire, mais j'en doute.
Est-ce que le phénomène de gentrification du centre-ville gêne les Marseillais? Après tout, c'est un phénomène que toutes les villes connaissent. L'Est parisien, par exemple, les arrondissements de l'Est parisien ont connu ça. Est-ce que ça gêne ou est-ce qu'on se dit que c'est l'air du temps? Voilà, c'est le sens de l'histoire, on gentrifie les centres-villes.
Ben, ça dépend où vous vous situez, ça dépend si vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir habiter dans le centre-ville, rénové avec cette belle nouvelle place de la Plaine qui ressemble effectivement à une place qui pourrait se situer à Lyon, à Bordeaux ou à Toulouse. Ou si vous êtes de l'autre côté des taudis qui sont aussi dans le centre-ville.
Bien, alors, on va terminer par la question importante. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Parce que l'équipe Godin est partie, c'est fini. Est-ce qu'on voit un changement? Est-ce qu'on arrive à dessiner une autre façon de faire à Marseille?
Alors, c'est peut-être un petit peu technique, mais en tout cas, dans la façon de faire, il y a une société publique d'aménagement qui a été créée, qui réunit plusieurs acteurs, donc la municipalité, mais aussi la métropole et l'État. Des îlots ont été ciblés dans Marseille. On appelle ça des îlots démonstrateurs dans le jargon des techniciens.
Il y a des pistes, quand même.
Censé être appliquée une politique pour résorber l'habitat indigne. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'habitat indigne à Marseille, ce n'est pas quatre îlots, ça va au-delà. La question des grandes cités dégradées, par exemple, n'a pas vraiment été effleurée. Et la problématique de l'habitat indigne à Marseille est loin d'être résolue. Il faudra des années et beaucoup de motivation. Pour y arriver.
Merci en tout cas Violette Artaud pour ce panorama complet de la ville de Marseille hier et aujourd'hui. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les immeubles effondrés de la rue d'Aubagne à Marseille. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.